Il n'allait chez elle que le soir et il ne savait rien de l'emploi de son temps pendant le jour, pas plus que de son passé. Au point qu'il lui manquait même ce petit renseignement initial qui, en nous permettant de nous imaginer ce que nous ne savons pas, nous donne envie de le connaître. Aussi ne se demandait-il pas ce qu'elle pouvait faire, ni quelle avait été sa vie. Il souriait seulement quelquefois en pensant qu'il y a quelques années, quand il ne la connaissait pas, on lui avait parlé d'une femme qui, s'il se rappelait bien, devait certainement être elle. Comme d'une fille, d'une femme entretenue, une de ces femmes auxquelles il attribuait encore, comme il avait peu vécu dans leur société, le caractère entier, foncièrement pervers, dont les dota longtemps l'imagination de certains romanciers. Il se disait qu'il n'y a souvent qu'à prendre le contre-pied des réputations que fait le monde pour juger exactement une personne quant à un tel caractère il opposait celui d'Odette, bonne, naïve, éprise d'idéal, presque si incapable de ne pas dire la vérité, que l'ayant un jour prié pour pouvoir dîner seule avec elle, d'écrire au Verdurin qu'elle était souffrante, le lendemain, il l'avait vue devant Madame Verdurin, qui lui demandait si elle allait mieux, rougir, balbutier, et refléter malgré elle sur son visage le chagrin, le supplice que cela lui était de mentir. Et tandis qu'elle multipliait dans sa réponse les détails inventés sur sa prétendue indisposition de la veille, avoir l'air de faire demander pardon par ses regards suppliants et sa voix désolée de la fausseté de ses paroles. Certains jours pourtant, mais rares, elle venait chez lui dans l'après-midi interrompre sa rêverie ou cette étude sur Vermeer à laquelle il s'était remis dernièrement. On venait lui dire que Madame de Crécy était dans son petit salon. Il allait l'y retrouver, et quand il ouvrait la porte, au visage rosé d'Odette, dès qu'elle avait aperçu Swann, venait, changeant la forme de sa bouche, le regard de ses yeux, le modelé de ses joues, se mélanger un sourire. Une fois seule, il revoyait ce sourire, celui qu'elle avait eu la veille, un autre dont elle l'avait accueilli telle ou telle fois. Celui qui avait été sa réponse en voiture quand il lui avait demandé s'il lui était désagréable en redressant les cattleyas. Et la vie d'Odette, pendant le reste du temps, comme il n'en connaissait rien, lui apparaissait avec son fond neutre et sans couleur, semblable à ces feuilles d'études de Watteau où on voit ça et là, à toutes les places, dans tous les sens, dessinées aux trois crayons sur le papier chamois, d'innombrables sourires. Mais parfois, dans un coin de cette vie que Swann voyait toute vide, même si son esprit lui disait qu'elle ne l'était pas, parce qu'il ne pouvait pas l'imaginer, quelque ami qui, se doutant qu'il s'aimait, ne se fût pas risqué à lui rien dire d'elle que d'insignifiant, lui décrivait la silhouette d'Odette qu'il avait aperçue le matin même, montant à pied la rue Abatucci, dans une visite, garnie de chunk sous un chapeau à la Rembrandt et un bouquet de violettes à son corsage. Ce simple croquis bouleversait Swann, parce qu'il lui faisait tout d'un coup apercevoir qu'Odette avait une vie qui n'était pas tout entière à lui. Il voulait savoir à qui elle avait cherché à plaire par cette toilette qu'il ne lui connaissait pas. Il se promettait de lui demander où elle allait à ce moment-là, comme si dans toute la vie incolore, presque inexistante parce qu'elle lui était invisible, de sa maîtresse, il n'y avait qu'une seule chose en dehors de tous ses sourires adressés à lui, sa démarche sous un chapeau à la Rembrandt avec un bouquet de violettes au corsage. Sauf en lui demandant la petite phrase de Vinteuil au lieu de la valse des roses, Swann ne cherchait pas à lui faire jouer plutôt des choses qu'il aima, et pas plus en musique qu'en littérature, à corriger son mauvais goût. Il se rendait bien compte qu'elle n'était pas intelligente. En lui disant qu'elle aimerait tant qu'il lui parlât des grands poètes, elle s'était imaginée qu'elle allait connaître tout de suite des couplets héroïques et romanesques dans le genre de ceux du vicomte de Borély, en plus émouvante encore. Pour Vermeer de Deft, elle lui demanda s'il avait souffert par une femme, si c'était une femme qui l'avait inspirée. Et Swann lui ayant avoué qu'on n'en savait rien, elle s'était désintéressée de ce peintre. Elle disait souvent « Je crois bien ». La poésie, naturellement, il n'y aurait rien de plus beau si c'était vrai, si les poètes pensaient tout ce qu'ils disent. Mais bien souvent, il n'y a pas plus intéressé que ces gens-là. J'en sais quelque chose. J'avais une amie qui a aimé une espèce de poète. Dans ses vers, il ne parlait que de l'amour, du ciel, des étoiles. Ah, ce qu'elle a été refaite! Il lui a croqué plus de 300 000 francs. Si alors Swann cherchait à lui apprendre en quoi consistait la beauté artistique, comment il fallait admirer les vers ou les tableaux, au bout d'un instant, elle cessait d'écouter, disant « Oui, je ne me figurais pas que c'était comme cela. » Il sentait qu'elle éprouvait une telle déception qu'il préférait mentir en lui disant que tout cela n'était rien, que ce n'était encore que des bagatelles, qu'il n'avait pas le temps d'aborder le fond, qu'il y avait autre chose. Mais elle lui disait vivement « Autre chose ? Quoi ? Dis-le alors !» Mais il ne le disait pas, sachant combien cela lui paraîtrait mince et différent de ce qu'elle espérait, moins sensationnel et moins touchant, et craignant que, désillusionnée de l'art, elle ne le fût en même temps de l'amour. Et, en effet, elle trouvait Swann intellectuellement inférieur à ce qu'elle aurait cru. « Tu gardes toujours ton sang-froid. Je ne peux te définir. » Elle s'émerveillait davantage de son indifférence à l'argent, de sa gentillesse pour chacun, de sa délicatesse. Et il arrive en effet souvent pour de plus grands que n'était Swann, pour un savant, pour un artiste, quand il n'est pas méconnu par ceux qui l'entourent, que celui de leurs sentiments qui prouve que la supériorité de son intelligence s'est imposée à eux, ce n'est pas par leur admiration pour ses idées, car elles leur échappent, mais leur respect pour sa bonté. C'est aussi du respect qu'inspirait à Odette la situation qu'avait Swann dans le monde, mais elle ne désirait pas qu'il cherchât à l'y faire recevoir. Peut-être sentait-elle qu'il ne pourrait pas y réussir, et même craignait-elle que rien qu'en parlant d'elle, il ne provoquât des révélations qu'elle redoutait. Toujours est-il qu'elle lui avait fait promettre de ne jamais prononcer son nom. La raison pour laquelle elle ne voulait pas aller dans le monde, lui avait-elle dit, était une brouille qu'elle avait eue autrefois avec une amie, qui, pour se venger, avait ensuite dit du mal d'elle. Swann objectait. « Mais tout le monde n'a pas connu ton amie ?»« Mais si, ça fait la tache d'huile. Le monde est si méchant. » D'une part, Swann ne comprit pas cette histoire, mais d'autre part, il savait que ses propositions « Le monde est si méchant » et « Un propos calomnieux fait la tache d'huile » sont généralement tenus pour vrais. Il devait y avoir des cas auxquels elle s'appliquait. Celui d'Odette était-il l'un de ceux-là? Il se le demandait, mais pas longtemps, car il était sujet lui aussi à cette lourdeur d'esprit qui s'apesantissait sur son père quand il se posait un problème difficile. D'ailleurs, ce monde qui faisait si peur à Odette ne lui inspirait peut-être pas de grands désirs, car pour qu'elle se le représentât bien nettement, il était trop éloigné de celui qu'elle connaissait. Pourtant, tout en étant restée à certains égards vraiment simple, elle avait par exemple gardé pour amie une petite couturière retirée, dont elle grimpait presque chaque jour l'escalier raide, obscur et fétide. Elle avait soif de chic, mais ne s'en faisait pas la même idée que les gens du monde. Pour eux, le chic est une émanation de quelques personnes peu nombreuses qui le projettent jusqu'à un degré assez éloigné, et plus ou moins affaibli dans la mesure où l'on est distinct du centre de leur intimité, dans le cercle de leurs amis ou des amis de leurs amis dont les noms forment une sorte de répertoire. Les gens du monde le possèdent dans leur mémoire. Ils ont sur ces matières une érudition d'où ils ont extrait une sorte de goût, de tact, si bien que Swann, par exemple, sans avoir besoin de faire appel à son savoir mondain, s'il lisait dans un journal les noms des personnes qui se trouvaient à un dîner, pouvait dire immédiatement la nuance du chic de ce dîner comme un lettré, à la simple lecture d'une phrase, apprécier exactement la qualité littéraire de son auteur. Mais Odette faisait partie des personnes, extrêmement nombreuses, quoi qu'en pensent les gens du monde, et comme il y en a dans toutes les classes de la société, qui ne possèdent pas ces notions. Imagine un chic tout autre, qui revêt divers aspects selon le milieu auquel elles appartiennent, mais a pour caractère particulier, que ce soit celui dont rêvait Odette ou celui devant lequel s'inclinait Madame Cottard, devait être directement accessible à tous. L'autre, celui des gens du monde, l'est à vrai dire aussi, mais il y faut quelques délais. Odette disait de quelqu'un « Il ne va jamais que dans les endroits chics ». Et si Swann lui demandait ce qu'elle entendait par là, elle lui répondait avec un peu de mépris. « Mais les endroits chics, parbleu! Si à ton âge il faut apprendre ce que c'est que les endroits chics, que veux-tu que je te dise, moi ?» Par exemple, le dimanche matin, l'avenue de l'Impératrice. À 5 heures, le tour du lac. Le jeudi, l'Eden Théâtre. Le vendredi, l'Hippodrome. Les bals. Mais quels bals ? Mais les bals qu'on donne à Paris. Les bals chics, je veux dire. Tiens, Herbinger, tu sais celui qui est chez un coulissier ? Mais si, tu dois savoir, c'est un des hommes les plus lancés de Paris. Ce grand jeune homme blond qui est tellement snob. Il a toujours une fleur à la boutonnière, une raie dans le dos, des paletots clairs. Il est avec ce vieux tableau qu'il promène à toutes les premières. Eh bien, il a donné un bal l'autre soir. Il y avait tout ce qu'il y a de chic à Paris. Ce que j'aurais aimé y aller. Mais il fallait présenter sa carte d'invitation à la porte et je n'avais pas pu en avoir. Au fond, j'aime autant ne pas y être allée. C'était une tuerie. Je n'aurais rien vu. C'est plutôt pour pouvoir dire qu'on était chez Herbinger. Et tu sais, moi, la gloriole. Du reste, tu peux bien te dire que sur 100 qui racontent qu'elles y étaient, il y a bien la moitié dont ça n'est pas vrai. Mais ça m'étonne que toi, un homme si pchut, tu n'y étais pas. Mais Swann ne cherchait nullement à lui faire modifier cette conception du chic, pensant que la sienne n'était pas plus vraie, était aussi sotte, dénuée d'importance. Il ne trouvait aucun intérêt en instruire sa maîtresse, si bien qu'après des mois, elle ne s'intéressait aux personnes chez qui il allait que pour les cartes de pesage, du concours hippique, les billets de première qu'il pouvait avoir par elle. Elle souhaitait qu'il cultivât des relations si utiles, mais elle était par ailleurs portée à les croire peu chic depuis qu'elle avait vu passer dans la rue la marquise de Villeparisis en robe de laine noire avec un bonnet à bride. Mais elle a l'air d'une ouvreuse, d'une vieille concierge, darling. Ça, une marquise? Je ne suis pas marquise, mais il faudrait me payer bien cher pour me faire sortir nippée comme ça. Elle ne comprenait pas que Swann habitât l'hôtel du Quai d'Orléans, que sans oser le lui avouer, elle trouvait indigne de lui. Certes, elle avait la prétention d'aimer les antiquités et prenait un air ravi et fin pour dire qu'elle adorait passer toute une journée à bibloter, à chercher du bric-à-brac, des choses du temps. Bien qu'elle s'entêtât dans une sorte de point d'honneur et semblât pratiquer quelques préceptes familiales, en ne répondant jamais aux questions et en ne rendant pas de compte sur l'emploi de ses journées, elle parla une fois à Swann d'une amie qu'il avait invitée et chez qui tout était de l'époque. Mais Swann ne put arriver à lui faire dire quelle était cette époque. Pourtant, après avoir réfléchi, elle répondit que c'était moyenâgeux. Elle entendait par là qu'il y avait des boiseries. Quelque temps après, elle lui reparla de son ami et ajouta, sur le ton hésitant et l'air entendu dont on cite quelqu'un avec qui on a dîné la veille et dont on n'avait jamais entendu le nom, mais que vos amphitryons avaient l'air de considérer comme quelqu'un de si célèbre qu'on espère que l'interlocuteur saura bien de qui vous voulez parler. Elle a une salle à manger du 18e. Elle trouvait du reste cela affreux, nu, comme si la maison n'était pas finie. Les femmes y paraissaient affreuses et la mode n'en prendrait jamais. Enfin, une troisième fois, elle en reparla et montra à Swann l'adresse de l'homme qui avait fait cette salle à manger qu'elle avait envie de faire venir, quand elle aurait de l'argent, pour voir s'il ne pourrait pas lui en faire, non pas certes une pareille, mais celle qu'elle rêvait, et que malheureusement les dimensions de son petit hôtel ne comportaient pas, avec de hauts dressoirs, des meubles Renaissance et des cheminées comme au château de Blois. Ce jour-là, elle laissa échapper devant Swann ce qu'elle pensait de son habitation du Quai d'Orléans. comme il avait critiqué que l'ami d'Odette donnât non pas dans le Louis XVI, car, disait-il, bien que cela ne se fasse pas, cela peut être charmant. Mais dans le faux ancien, tu ne voudrais pas qu'elle vécût comme toi au milieu de meubles cassés et de tapis usés, lui dit-elle. Le respect humain de la bourgeoisie l'emportant encore chez elle sur le dilettantisme de la cocotte. De ceux qui aimaient à bibeloter, qui aimaient les vers, méprisaient les bas calculs, rêvaient d'honneur et d'amour, elle faisait une élite supérieure au reste de l'humanité. Il n'y avait pas besoin qu'on eût réellement ses goûts, pourvu qu'on les proclamât. D'un homme qui l'avait avoué à dîner qu'il aimait à flâner, à se salir les doigts dans les vieilles boutiques, qu'il ne serait jamais apprécié par ce siècle commercial car il ne se souciait pas de ses intérêts et qu'il était pour cela d'un autre temps, elle revenait en disant « Mais c'est une âme adorable, insensible, je ne m'en étais jamais douté. » Et elle se sentait pour lui une immense et soudaine amitié. Mais en revanche, ceux qui, comme Swann, avaient ses goûts, mais n'en parlaient pas, la laissaient froide. Sans doute, elle était obligée d'avouer que Swann ne tenait pas à l'argent, mais elle ajoutait d'un air boudeur. Mais lui, ça n'est pas la même chose. Et en effet, ce qui parlait à son imagination, ce n'était pas la pratique du désintéressement, c'en était le vocabulaire. Sentant que souvent il ne pouvait pas réaliser ce qu'elle rêvait, il cherchait du moins à ce qu'elle se plût avec lui, à ne pas contrecarrer ses idées vulgaires, ce mauvais goût qu'elle avait en toutes choses, et qu'il aimait d'ailleurs comme tout ce qui venait d'elle, qu'il enchantait même, car c'était autant de traits particuliers grâce auxquels l'essence de cette femme lui apparaissait, devenait visible. Aussi, quand elle avait l'air heureux parce qu'elle devait aller à la reine Topaze, ou que son regard devenait sérieux, inquiet et volontaire si elle avait peur de manquer la fête des fleurs, ou simplement l'heure du thé avec muffins et toast au thé de la rue Royale, où elle croyait que l'assiduité était indispensable pour consacrer la réputation d'élégance d'une femme, Swann, transporté comme nous le sommes par le naturel d'un enfant ou par la vérité d'un portrait qui semble sur le point de parler, sentait si bien l'âme de sa maîtresse affleurer à son visage qu'il ne pouvait résister à venir l'y toucher avec ses lèvres. Ah, elle veut qu'on l'amène à la fête des fleurs, la petite Odette. Elle veut se faire admirer. Eh bien, on l'y mènera. Nous n'avons qu'à nous incliner. Comme la vue de Swann était un peu basse, il dut se résigner à se servir de lunettes pour travailler chez lui et à adopter pour aller dans le monde le monocle qui le défigurait moins. La première fois qu'elle lui en vit un dans l'œil, elle ne put contenir sa joie. « Je trouve que pour un homme, il n'y a pas à dire, ça a beaucoup de chic. Comme tu es bien ainsi. Tu as l'air d'un vrai gentleman. Il ne te manque plus qu'un titre, » ajouta-t-elle avec une nuance de regret. Il aimait qu'Odette fût ainsi. De même que s'il avait été épris d'une bretonne, il aurait été heureux de la voir en coiffe et de lui entendre dire qu'elle croyait au revenant. Jusque-là, comme beaucoup d'hommes chez qui leur goût pour les arts se développe indépendamment de la sensualité, un disparate bizarre avait existé entre les satisfactions qu'il accordait à l'un et à l'autre, jouissant, dans la compagnie de femmes de plus en plus grossières, des séductions d'œuvres de plus en plus raffinées. Emmenant une petite bonne dans une baignoire grillée à la représentation d'une pièce décadente qu'il avait envie d'entendre, ou à une exposition de peinture impressionniste, et persuadé d'ailleurs qu'une femme du monde cultivé n'y eût pas compris davantage, mais n'aurait pas su se taire aussi gentiment. Mais au contraire, depuis qu'il aimait Odette, sympathiser avec elle, tâcher de n'avoir qu'une âme à eux deux, lui était si doux qu'il cherchait à se plaire aux choses qu'elle aimait. Et il trouvait un plaisir d'autant plus profond, non seulement à imiter ses habitudes, mais à adopter ses opinions, que, comme elle n'avait aucune racine dans sa propre intelligence, elle lui rappelait seulement son amour, à cause duquel il les avait préférées. S'il retournait à Serge Panine, s'il recherchait les occasions d'aller voir conduire Olivier Métra, c'était pour la douceur d'être initié dans toutes les conceptions d'Odette, de se sentir de moitié dans tous ses goûts. Ce charme de la rapprocher d'elle, qu'avaient les ouvrages ou les lieux qu'elle aimait, lui semblait plus mystérieux que celui qui est intrinsèque à de plus beau, mais qui ne la lui rappelait pas. D'ailleurs, ayant laissé s'affaiblir les croyances intellectuelles de sa jeunesse et son scepticisme d'homme du monde, ayant à son insu pénétré jusqu'à elle, il pensait, ou du moins il avait si longtemps pensé cela qu'il le disait encore, que les objets de nos goûts n'ont pas en eux une valeur absolue, mais que tout est affaire d'époque, de classe, consiste en modes dont les plus vulgaires valent celles qui passent pour les plus distinguées. Et comme il jugeait que l'importance attachée par Odette à avoir des cartes pour le vernissage n'était pas en soi quelque chose de plus ridicule que le plaisir qu'il avait autrefois à déjeuner chez le prince de Galles, de même il ne pensait pas que l'admiration qu'elle professait pour Monte-Carlo ou pour le Rigi fût plus déraisonnable que le goût qu'il avait, lui, pour la Hollande, qu'elle se figurait laide, et pour Versailles qu'elle trouvait triste. Aussi se privait-il d'y aller, ayant plaisir à se dire que c'était pour elle qu'il voulait ne sentir, n'aimer qu'avec elle.